Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et parallèlement, le titre Tesla à Wall Street gagne en ce moment. Il est 11h05 à New York, 12% en plus, 12% Tesla après les 24 heures d'Elon Musk en Chine. Elon Musk qui a réussi à franchir un certain nombre d'obstacles réglementaires qui devraient donc permettre à Tesla d'enfin déployer son logiciel de conduite autonome FSD en Chine. On en parlait avec John Plassard tout à l'heure, c'était à 15h30 si vous avez raté le direct replay sur notre site BFM Bourse et l'application BFM Business. Quel avenir pour Tesla désormais en Chine après donc cette visite victorieuse quand même d'Elon Musk d'à peine 24 heures sur place. Et quel potentiel plus largement sur les marchés? On va poser la question à nos experts du club. Ils sont là, ils viennent de s'installer. Xavier Patrolin, bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Président d'Albatros Capital. Véronique Riche-Flores aussi nous accompagne en fil rouge cet après-midi. Rebonsoir Véronique.
Bonsoir Guillaume.
RF Research. On est content de vous accueillir l'un et l'autre. On va bien sûr parler Total Energy dans un instant. Pourquoi pas Tesla, tiens, qui fait un pas important quand même en Chine. Là, le titre gagne 12% à Wall Street. Mais d'abord, l'état des marchés. On avance bien dans la saison de publication. Le mois d'avril est négatif sur les marchés. Les publications dispersement arbitrées. Comment est-ce que vous voyez ce que nous disent les entreprises? Est-ce que vous êtes plutôt dans le camp des gens plutôt rassurés, Xavier, en l'occurrence, ou plutôt déçus par les premières publications en Europe?
Non, globalement, c'est plutôt rassurant au niveau des marges, mais c'est plutôt inquiétant sur les évolutions en termes de volume. Au fond, on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que globalement, les entreprises arrivent à préserver des marges extrêmement élevées avec des effets volume plutôt légers, voire même négatifs. Et donc la question qui se pose, c'est la soutenabilité du niveau de rentabilité des entreprises. Et j'avoue que j'ai une interrogation aujourd'hui. Donc en effet embarqué, le niveau des marges reste plutôt bon. Il y a eu sur le marché français, il y a eu le profit warning de Kering, mais globalement ça reste plutôt bon. On voit que le consensus a plutôt tendance à continuer à réviser, ça s'effrite, que ce soit pour 2024, 2025 ou 2026. On a plutôt des révisions, mais c'est très léger, hein, mais on a plutôt une érosion du chiffre d'affaires, une érosion des marges, et parallèlement des marchés qui sont pas loin de leur plus haut. Donc ça passe tant qu'on a ce niveau de rentabilité, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire si on rapporte la valorisation des marchés au niveau de rentabilité, on se dit non, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Simplement, on est obligé de regarder ce qui s'est passé, la rentabilité qu'affichaient les entreprises, que ce soit aux États-Unis ou en Europe avant le Covid, et elle était significativement inférieure. Donc on reste toujours dans cette logique prix-profit. Mais si on a bien, alors c'est si, hein, il y a beaucoup de si dans ce que je raconte, mais si on a bien une érosion de l'inflation, ça va être une question essentielle au cours de cette émission, on ne comprend pas bien pourquoi les entreprises continueraient à afficher de tels niveaux de rentabilité. Donc moi, j'ai l'impression que je reste positif pour l'année qui vient, le début de l'année prochaine, mais j'avoue être relativement inquiet pour la deuxième, bon, c'est un peu loin, c'est pas le sujet du moment, mais pour 2025-2026. Et quand je croise ça avec les indicateurs de stress financier aux États-Unis qui sont au plus bas des plus bas. Je conclurai là-dessus. L'indicateur de stress financier, la dernière fois qu'il s'est retrouvé sur ce décile de faiblesse, c'est-à-dire au niveau de 1, c'est-à-dire dans 95% des cas, sur les 15 dernières années, il a été systématiquement au-dessus. La dernière fois qu'il s'est retrouvé dans cet étiage de stress financier, c'était janvier 2007. Ou avril 2007. Tu sais ce qui s'est passé 15 mois plus tard. Donc, d'un point de vue contracyclique, quand je vois l'errement de la Fédérale Réserve actuellement, je dis aux investisseurs, soyez prudents sur le moyen terme. Quand vous avez un niveau de stress financier aussi faible, de telle valorisation, de tel niveau de rentabilité, pour moi, ce n'est pas un contexte favorable à un investissement de moyen terme. Par contre, à court terme, on peut continuer à jouer le marché, mais à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 18-24 mois, j'avoue, à commencer à être extrêmement prudent.
Enfin, la croissance est là. Alors, la croissance américaine, en tout cas.
Oui, justement, c'est le problème.
Pourquoi ces problèmes?
C'est le problème parce que la Fédérale Réserve est complètement à l'envers. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi, la croissance est là, et donc je ne comprends pas cette volonté de la Fédérale Réserve de vouloir venir en stimulation d'une économie américaine qui reste extrêmement solide. Ça se voit sur plein d'indicateurs. Mais je vais laisser Véronique.
Alors justement, c'est cette semaine que la Fed va annoncer sa décision politique monétaire, avec une croissance, c'est vrai, qui au premier trimestre a ralenti aux États-Unis, mais on sent quand même que les moteurs restent relativement puissants. Enfin, comment est-ce que vous voyez la dynamique américaine? Et cette Fed, c'est vrai, dans une position de plus en plus inconfortable. Elle l'avait promis, Jérôme Powell avait promis en décembre dernier des baisses de taux. Désormais, on va vers les baisses de taux, avait-il dit. Le marché y croit de moins en moins, en tout cas de moins en moins rapidement, et on a même cette hypothèse d'une hausse de taux qui monte. On a une probabilité pricée par le marché d'une hausse de taux de la Fed d'ici un an, de 33%, cette probabilité. C'est pas complètement rien, Véronique.
Oui, et ça s'est fait au cours des toutes dernières semaines, effectivement, on a vu cette probabilité de hausse des taux tout d'un coup réapparaître. Alors, de toute façon, les résultats sur le front de l'inflation sont là, hein, ils sont pas bons. Ils sont pas bons dans l'absolu, et ils sont pas bons en directionnel. Alors après, notre travail va consister à regarder dans le détail, et on voit que finalement, il y a quand même des éléments perturbants qui sont pas forcément cycliques, le prix des assurances, etc. Et puis, dans le détail, finalement, les chiffres du mois de mars sont quand même un peu meilleurs que ce que n'était le cas en janvier et février. Bon, on se rassure. Mais après, du côté de l'activité, il y a quand même des signes de potentielle faiblesse. Hein. On voit que c'est pas une activité en plein boom, en pleine reprise, avec tous les secteurs en bonne santé, loin de là. Et d'ailleurs, je trouve que le marché de l'emploi nous renvoie tout à fait cette image-là. Quand on regarde le détail par secteur, on voit que les emplois sont très concentrés. C'est de l'éducation, de la santé et des emplois publics, en gros. Hein. Et puis, dans le reste de l'économie du secteur privé, il se passe quasiment plus grand chose depuis 12 mois au moins. Donc il y a des poches comme ça où on sent que l'économie est à flot donc ça sans doute que ça entretient une certaine dose de prudence de la Fed. Mais à côté de ça, on l'a dit, du côté de l'inflation, on voit pas les résultats suffisants, surtout dans un cas, alors à la limite on pourrait dire attendons, mais ne venons pas stimuler par des baisses de taux, surtout pas, parce que là on sent qu'effectivement c'est prêt à repartir. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets richesse encore très importants qui tiennent la consommation, qui tiennent l'immobilier, même si il y a là aussi dans le secteur immobilier on peut raconter presque tout et son contraire, parce que c'est très disparate. Et puis il y a surtout un électron libre, c'est la politique de Joe Biden derrière tout ça, et qui est imprévisible, parce que grosso modo tous les 4 matins on rajoute de nouveaux plans de soutien à tel ou tel secteur. C'est absolument gigantesque, et quand on a le week-end dernier, enfin le précédent, quand a été votée l'aide de 91 milliards de dollars, si je me souviens bien, pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, on se dit c'est une aide qui va à l'extérieur. Non, pas du tout. C'est une aide qui va venir permettre de reconstituer les stocks militaires aux États-Unis, qui va donc avoir une influence immédiate, enfin,
sur le PIB.
En fait, c'est la question.
Ça va nourrir l'industrie de la défense américaine.
Exactement. Et un peu plus loin, ça peut nourrir la demande de matières premières, etc. Donc, finalement, on voit bien comment, d'une économie qui vivote, on arrive à quelque chose qui se tient et qu'il faut surtout pas venir soutenir davantage par des baisses de taux. Donc, Jerome Powell va prendre acte de ceci, sans doute, pour mettre à l'écart toute probabilité de baisse des taux en juin. Et sans doute en juillet.
Et elle pourra baisser ses taux en septembre, juste avant la présidentielle américaine, où là aussi on dira à ce moment-là, c'est compliqué.
Je pense qu'il ne nous le dira pas. Oui. Je pense qu'il va sans doute nous laisser entendre qu'il y a encore des baisses de taux à son esprit qui sont possibles, mais conditionnées. Et je ne pense pas qu'on aura un Jerome Powell hawkish au point de nous dire attention, on va peut-être remonter les taux. Non, pas du tout.
Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans? Parce que quand même, on a cette croissance américaine incroyable, on est très en retard en Europe, et même en termes de niveau de revenus, les Américains sont en train de plier les Européens, là, les classes moyennes même. On a cet article qui a été publié dans Le Monde, qui fait pas mal de bruit ce week-end, sur effectivement une forme de déclassement des consommateurs européens par rapport aux consommateurs américains, en l'occurrence, Xavier.
Oui, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne, hein. C'est la fable du lièvre et de la tortue. Le lièvre américain est chauffé au fer rouge par Joe Biden et la Federal Reserve. C'est un raisonnement, d'ailleurs le raisonnement de l'article dans Le Monde est un raisonnement dans le système de prix américain. Il faut le relativiser. La croissance américaine est faite au prix de déficits absolument spectaculaires. Déficit des balances des paiements de plus de 3%, déficit budgétaire entre 5 et 7. Endettement des États-Unis qui est celui identique d'une certaine façon ou supérieur à celui de la France, sauf que la zone euro, elle, a un excédent de balance commerciale, a un déficit consolidé qui est plus faible. Donc attention, la messe n'est pas dite. Mais c'est vrai que quand on mesure en PNB par habitant libellé en dollars, l'écart est fait. Mais c'est une course. D'accord, on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Donc n'allons pas plus. Et alors, dernier point, ceci est fait au prix d'émissions de CO2 absolument spectaculaires. Il faut toujours se souvenir quand même que une croissance américaine, chaque point de PIB aux États-Unis, c'est deux fois et demi plus de CO2 émis que dans la zone euro. Je ne parle pas de la France qui est exemplaire sur bien des aspects de ce point de vue-là. Donc,
mais parce qu'ils produisent davantage sur leur territoire qu'en Chine. Nous, Européens, on fait davantage produire par la Chine que sur notre territoire en Europe. C'est une explication, conséquences de la désindustrialisation.
Pas uniquement, c'est simplement que l'activité commerciale économique américaine est du point de vue énergétique est beaucoup plus intense que l'activité en zone euro. On intègre marginalement les importations américaines, mais c'est bon. Donc oui, il y a pour l'instant ils ont essayé le spinnaker, ils vont beaucoup plus vite que nous. Sauf que quand vous hissez le spinnaker et qu'il y a du gros temps qui arrive, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc les Européens, eux, sont confrontés à un choc énergétique qui est asymétrique, qui n'est pas le même qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont producteurs, nous étions importateurs, et donc ça crée une asymétrie. Mais cette asymétrie, on va le corriger peut-être lentement, mais on va le corriger.
Bon. Donc, dites aux Américains, ne criez pas victoire trop vite.
Voilà, exactement. Ils ont carrément gagné c'est une victoire, mais ils n'ont pas gagné nécessairement la guerre.
Il nous reste 18 minutes jusqu'à la clôture, 17h17. On entre dans la dernière ligne droite et on accélère. Le CAC 40 est en repli. Malheureusement, légère baisse, dans de faibles volumes en plus. C'est vrai que c'est une semaine à trous là qui nous attend, puisque la journée de mercredi ne sera pas une journée de cotation à Paris. La bourse de Paris sera fermée. Aujourd'hui, le CAC 40 est en repli de 0,17%. La lanterne rouge, c'est Hermès, figurez-vous. Hermès qui recule quand même assez nettement, plus de 2%. On a aussi Safran qui recule d'1,8%. Mais c'est le secteur du luxe, globalement, qui pèse le plus sur l'indice CAC 40, puisqu'au-delà d'Hermès, LVMH aussi recule d'1,7%. Et puis à la hausse, quand même, Eurofin Scientifique qui gagne 4%. Hors CAC, Philips qui dénoue un litige aux États-Unis et ce titre Philips qui récupère, tenez-vous bien, 28,5% avec des rachats de short quand même qui expliquent en grande partie ce rebond impressionnant de Philips à la bourse d'Amsterdam, plus 28,5% donc à 25,39€. On continuera de parler de la clôture à venir. Étienne Braque sera avec nous dans quelques minutes depuis la Tour Euronext. Auparavant, Véronique et Xavier nous accompagnent. Quel sera le temps fort de la semaine à vos yeux? C'est la question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez vous tous vous y abonner. Quel sera pour vous le principal temps fort? Est-ce que ce sera la Fed, dont on a parlé à l'instant? Est-ce que ce sera plutôt la publication d'Apple, jeudi soir Apple, celle de Stellantis à Paris, qui sera très suivie aussi? Ou finalement, vous vous concentrez sur le jour férié du 1er mai, qui pour vous sera le marqueur de cette semaine sur les marchés? Vous êtes nombreux à voter, n'hésitez pas à continuer, nous laissez vos arguments aussi en commentaire. On a beaucoup parlé de la Fed, là, Véronique, Xavier, c'est parce que c'est le principal rendez-vous de la semaine, ou c'est plutôt du côté des publications d'entreprises, d'Apple par exemple, qui va falloir tourner le regard?
Je pense que la Fed reste le principal rendez-vous, même si effectivement c'est une réunion intertrimestrielle. Donc le vrai grand rendez-vous, il sera en juin. Mais ça me paraît effectivement un rendez-vous top priorité.
Vous voteriez la Fed de votre côté, comme la majorité de nos auditeurs et téléspectateurs, à 45%. Vous estimez que c'est la Fed qui sera principal rendez-vous de la semaine devant Apple. Vous êtes un peu plus de 15% à voter Apple, jeudi soir Apple, l'intelligence artificielle, les développements d'Apple qui aujourd'hui progressent à Wall Street. Le titre Apple de 3%, puisque plusieurs sources nous disent qu'Apple s'intéresse beaucoup à ChatGPT et pourrait vouloir utiliser ChatGPT dans un certain nombre de ses solutions. Apple donc en hausse à Wall Street de 3%. Ça veut dire que l'IA, ça continue de compter. On finissait par se poser la question parce que Meta a annoncé de grosses dépenses encore à venir dans l'IA. Bah, ça avait fait baisser le titre. On s'était dit la semaine dernière, l'IA, ça fait plus forcément rêver. En tout cas, c'est plus mécanique, c'est plus automatique, la hausse des valeurs quand les groupes annoncent des investissements dans l'IA. Voilà. Est-ce que la thématique IA reste magique en bourse ou on est sur la fin?
Je pense qu'on est au terme.
On est au terme.
On est au terme. Ouais. C'est ça a duré à peu près pas loin de 18 mois. Et je pense qu'on est au terme du processus. Ça veut pas dire que l'intelligence artificielle ne recèle pas des potentiels de moyen terme, mais le marché va attendre que ça délivre vraiment et que ça se voit entre guillemets dans les chiffres. Donc là, on a une espérance qui va devoir. Et donc moi, je serais pas étonné qu'on ait un retrait. D'ailleurs, on commence à voir Nvidia. Bon, on va pas uniquement réduire l'intelligence artificielle à Nvidia, mais on commence à voir que ça commence à scotcher un peu. Et d'ailleurs, Nvidia, dans un de ses communiqués, je crois, déposé à la SEC américaine, mentionnait qu'il commençait à avoir une forme de concurrence en termes de produits. Donc non, ça recèle, ça reste toujours une. Mais moi, si je devais investir dans les prochaines années, j'attendrais un petit rétro, si j'ose dire, ou voire même un gros rétro. Ce qu'il y a toujours dans des bulles spéculatives, elles sont pas nécessairement infondées, mais l'espérance va un peu trop loin, et donc l'espérance est recalibrée progressivement par rapport à des obstacles de transition. Les choses ne se déploient jamais toujours telles qu'on le croit sur des spreadsheets Excel, il y a toujours des éléments de frottement qu'on oublie, qui viennent ralentir la progression. On a d'autres concurrences des acteurs qui peuvent venir perturber. Oui. Et donc, je pense, non, moi j'irais plutôt, déjà, je serais un petit coup un peu contrariant, j'irais plutôt sur les valeurs ou secteurs qui ont été stressés par l'intelligence artificielle, en disant qu'elles ont peut-être eu une prime de risque un peu excessive. Vous voyez, je me mettrais un peu dans cette perspective-là.
Ah oui, téléperformance, par exemple.
Par exemple, ça me semble un excellent candidat. C'est un candidat qui a eu une espèce de fatwa définitive et qui est rangé au rebut. Je pense que la messe n'est pas dite, et je regarderai ça effectivement de plus près.
Cette thématique IA, pour vous, elle commence à s'user. Je ne parle pas industriellement et technologiquement. Hein, l'avenir appartient à l'intelligence artificielle, on a tous compris, mais boursièrement parlant, en l'occurrence, Véronique.
Oui, je pense. Après, tout n'est pas dans le même panier. Je pense que Nvidia n'est pas l'équivalent d'autres. C'est vrai qu'elle est montée de manière tout à fait spectaculaire, mais il y a un vrai marché. Tout à l'heure, on parlait de l'industrie de la défense et de l'armement. Ça fait partie aussi des secteurs qui peuvent profiter de ce surcroît de demande à venir. En revanche, voilà, j'ai vu en attendant un entrefilé, alors je crois que c'est McKinsey qui a sorti une étude sur les déceptions des entreprises qui ont beaucoup de mal finalement à retirer les bénéfices de leurs efforts d'investissement dans l'IA. Et ça aussi, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire, d'abord, il y a les entreprises Nvidia, etc., qui sont des fournisseurs de puces électroniques et puis qui accompagnent le développement de l'IA. Et puis, il y avait tout l'espoir d'un développement de la demande lié à la propagation de l'IA dans le monde industriel, au sens large. Et là, ça se fait pas tout seul. Et c'est normal. C'est logique. Ça prend plus de temps. Il faudra... ça peut prendre des années d'ailleurs avant d'en voir les retombées. Mais du coup, entre temps, effectivement, il y a une phase de digestion et puis donc oui. Ça retombe. Je pense que c'est plutôt comme ça que je comprends les choses.
On suivra Apple jeudi, Amazon aussi publiera demain soir, Xavier.
Oui, non, surtout sur l'intelligence artificielle, le concept est efficace à partir du moment où vous avez des métadonnées. C'est-à-dire que tout acteur qui veut vraiment développer une PME, n'importe qui veut développer un module d'intelligence artificielle doit en préalable avoir des métadonnées homogènes et réactualisées en permanence. Et ça, donc, c'est un préalable extrêmement lourd.
C'est ce qu'a fait Google. Google investit 3 milliards de dollars, c'est l'annonce du jour, 3 milliards de dollars dans des centres de données dans l'Indiana et en Virginie.
Voilà. Donc ça, c'est pour stocker l'information. Mais vous, en tant qu'entreprise, si vous voulez le déployer comme élément central de votre stratégie, vous devez avoir déjà mettre au clair vos données. Et donc si, du point de vue informationnel, vos données sont disparates, non homogènes, ou en tout cas il y a un certain nombre de blocages réglementaires ou fonctionnels, vous ne pouvez pas mettre en œuvre l'IA. Et puis je passe sur le fait qu'il y aura probablement des blocages plus comportementaux, c'est-à-dire peut-être, puisque l'IA peut déstabiliser énormément dans nos métiers, y compris des métiers dits à forte valeur ajoutée, et on peut penser que peut-être que dans les métiers à forte valeur ajoutée, on est des volontés un peu de freinage, parce que c'est une question de survie.
Effectivement, une autre thématique extrêmement puissante qui n'a cessé de monter en puissance ces dernières années, un peu plus ancienne que l'IA, c'est la thématique de la finance durable, l'ESG. Et là, on a une forme de retour de bâton quand même. D'abord parce que depuis plusieurs trimestres, l'ESG en bourse sous-performe. Et puis aussi parce que Total Energy envisage, pourquoi pas, de faire de Wall Street sa place de cotation principale. Parce que la part des Américains au capital de Total ne cesse de progresser. Les Américains, ils ont un peu moins de filtres ESG que nous, ils achètent encore le titre Total Energy alors que les Européens en achètent plus. C'est ce que dit le patron de Total Energy. Et donc, pourquoi pas Wall Street comme prochaine place principale de Total Energy. Est-ce que c'est... Enfin... Est-ce que tout est la faute de l'ESG, quoi? Enfin voilà, est-ce que là on a une forme de moment de lucidité sur l'ESG et ses implications globales, ou c'est plus de la politique qu'autre chose en l'occurrence? Xavier,
moi j'ai toujours été personnellement contre l'ESG, donc je vais faire bondir probablement beaucoup de gens, non pas de ses intentions de moyen terme, mais de sa mise en œuvre. C'est une mise en œuvre qui a été purement, puisqu'au fond, en faisant très court, les autorités européennes ont organisé un dispositif réglementaire administratif pour flécher l'épargne européenne vers une nomenclature d'investissement qui correspondait aux normes ESG. Donc au fond, on a fait basculer la gestion institutionnelle européenne dans une espèce de système ubuesque qui consistait à définir un purgatoire et un enfer et un paradis.
Vous
et
donc ceux qui étaient dans le purgatoire, il y a une sorte de fatwa sur un certain nombre d'entreprises.
Exactement. Côté, ouais. Et donc pour un titre comme Total, il est précédé de toutes les de l'économie fordisme, c'est-à-dire qu'il est carboné, évidemment, il émet du CO2, même s'il développe des énergies renouvelables. Il n'est donc pas développement durable. On passe sur le fait qu'il produit de l'électricité. De surcroît, il génère des surprofits post-conflit russo-ukrainien. Donc, c'est un groupe qui voit les gestions institutionnelles européennes rester en stand-by, voire sortir de ce titre, et qui voit, à l'inverse, de l'autre côté de l'Atlantique, des gestions institutionnelles ou à travers le monde. Parce que ne n'oublions jamais que les Européens sont à peine 400 millions et qu'il reste quand même 7 milliards 500 millions d'individus qui ne sont pas soumis à l'ESG. Donc les Européens échappent au principe de réalité. Donc c'est normal. Et donc ce qu'annonce M. Pouyanné, c'est au fond un gros warning. Parce que quand il dit « je vais aller me faire coter principalement sans déplacer mon siège social », mais c'est une vaste plaisanterie. Si vous allez vous faire coter principalement aux États-Unis, c'est évident que le siège social de Total déménagera aux États-Unis.
Non, pourquoi ?
C'est évident. Mais vous croyez que les investisseurs américains qui font la loi continueront à accepter que le siège social reste en Europe,
en fait,
ou en France?
Ils ne pourront pas intégrer le S&P 500 si leur siège social reste en France, ce serait très compliqué, mais ils peuvent ne pas intégrer le S&P 500.
Bien sûr, et à votre avis, le gestionnaire de l'Arkansas qui augmente sa... Qu'est-ce qu'il dira à M. Pouyanné? Combien de temps vous allez rester? C'est un groupe qui est soumis à... Vous voyez, ça ne marche pas.
L'influence américaine prendra le pas sur
bien sûr. Et nous, je m'arrête là. Après, la boucle est bouclée. On n'a plus, en plus, on n'a pas de fonds de fonds de réserve, de fonds de pension. En France, si on avait développé, je l'ai dit vendredi sur ce plateau, mais si on avait développé le F2R, le fonds de réserve des retraites, qui avait pour objet de développer un début de capitalisation labellé sous la garantie de l'État. Si on l'avait continué à le doter, il aurait pu avoir comme première ligne, ou parmi ses premières lignes, la ligne Total, et il aurait de surcroît bénéficié des dividendes, donc des surprofits de Total. Et ces surprofits auraient été distribués aux retraités. Là, on n'a pas ce dispositif. Donc, il n'y a pas un représentant français qui s'exprime à part l'État, mais du point de vue actionnarial, il n'y a pas de représentant européen qui s'exprime.
Donc, si la finance durable enlève un peu de souveraineté à l'Europe, est-ce qu'on peut continuer de la qualifier de durable? Non, mais c'est une vraie question qui peut se poser. Tout est une question de biais de prisme, en l'occurrence, Véronique.
C'est encore une question qui va finir par se poser, effectivement, parce que, encore une fois, vous avez une ambition, mais vous ne donnez pas les moyens. On n'est pas les États-Unis. L'Europe n'est pas comparable aux États-Unis en matière de force de frappe. À la limite, les Américains auraient mis en place un système ESG. Ils l'auraient tellement imposé à l'échelle mondiale que ça aurait plié quasiment, sans doute, la grande majorité de la planète à leurs exigences. L'Europe...
Elle montre l'exemple, au moins, l'Europe.
Elle montre l'exemple, mais ça ne suffit pas.
La belle affaire.
Et si on montre seulement l'exemple et qu'on ne met pas des moyens gigantesques, colossaux, qu'on n'a probablement pas d'ailleurs, en face, on est les dindons de la farce. Je pense que ça ressemble plutôt à ça. Et c'est assez préoccupant parce qu'effectivement, il y a 10 ans, l'ambition d'une Europe qui montre l'exemple en termes de développement durable, etc. Et donc là, on réglemente, on croit qu'on donne l'exemple et en fait, on se tire des balles dans le pied.
Xavier, vous vouliez rebondir là-dessus, je vous vois vous agiter.
Oui, je m'agite pas. Mais je dis, la belle affaire, tu es capable de dire dans la même émission, tu reprenais l'article du Monde de ce week-end qui mentionnait l'écart entre l'Europe et les États-Unis, oui. Et tu nous parlais d'exemples. Facilement cet article met en exergue les contraintes qu'a la croissance européenne. Donc, si tu veux, ça
pareil. C'est-à-dire que les nœuds dans lesquels l'Europe est en train de s'embourber montrent à quel point on est allé peut-être un peu trop vite, un peu trop loin, de façon peut-être idéologique, et c'est une fois, l'Europe devient un contre-exemple.
On a été dogmatique, on est en train de détruire notre industrie automobile. On est en train de détruire l'industrie automobile qui était l'un des principaux actifs industriels de l'Europe. Et que voit-on arriver ? On voit arriver des voitures chinoises. Au fond, ceux qui profitent des normes européennes, pas de l'ESG, mais des normes européennes, des normes environnementales, ce ne sont pas les industriels européens, c'est le Parti communiste chinois qui dirige son industrie de production de voitures électriques. Tu vas voir, tu rencontres des dirigeants chinois, ils te disent « mais continuez les normes !» aux Européens. Nous les lisons. Dès que vous émettez des normes, nous les lisons, nous les analysons et nous exécutons une base industrielle qui pourra répondre à ces normes. Tu comprends le paradoxe ? Donc qu'est-ce qu'on gagne dans... Quel exemple on montre ? On montre un exemple où on émettra moins de CO2, c'est vrai. C'est déjà le cas dans le monde. L'Europe est la zone du monde qui émet le moins de CO2. Mais ça nous empêche pas de détruire notre base industrielle. Donc au fond, la société européenne, elle va vivre comment ? Tu le verras au moment des élections du 9 juin. On en reparlera. Je serai pas là le lundi suivant, mais tu verras que probablement le soir ou le lendemain, on aura des analyses assez critiques sur le Green Deal européen, parce que probablement que les opinions publiques européennes auront voté avec leurs pieds sur ces ambitions ESG, parce que dans l'exécution, elles auront été perçues comme non compréhensibles et non pertinentes et destructrices en termes d'emploi.
L'idée est bonne, mais l'exécution là. Dans un monde carnivore, une Europe herbivore à elle seule restera isolée.
Mais l'exécution est centrale, bon. Ça sert à rien d'avoir des concepts si dans l'exécution c'est à chaque coup un échec. Bon,
après, il y a aussi des entreprises qui en profitent.
Il faut être pragmatique.
Il y a quand même des entreprises qui en profitent, on va quand même pas.
Sans doute.
Voilà, bien sûr. Et puis la France avec son nucléaire est quand même assez compétitive.
Mais le nucléaire, tu as vu dans quel état il était il y a à peine 18 mois.
Non, mais là ça va mieux.
Oui, mais tu as vu dans quel état. Et on a passé 20 ans à s'auto-flageller sur le nucléaire. On a quand même eu un virage à 180 degrés. On a été capable de fermer Fessenheim en disant qu'on allait en fermer 15 tranches supplémentaires. Et puis là, au moment où les Russes attaquent l'Ukraine, d'un seul coup, on décide de réouvrir 6 EPR, puis d'en rajouter 8 derrière. Ça, c'est ce que j'appelle faire une rotation à 180 degrés. Donc moi, je ne vois pas de cohérence. Du côté allemand, manifestement, les CO2 non carbonés émis par les centrales nucléaires étaient non pertinents, puisque du côté allemand, c'était considéré comme une énergie non renouvelable. Oui ou non ?